Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 6. Lorsque le vieux domestique eut tourné le coin de la rue Saint-Antoine, il ralentit le pas. Ce n'était plus l'homme que nous venons de voir, tour à tour jovial, emporté, sérieux ou enjoué, selon les besoins de la conversation qu'il échangeait avec le geôlier de la Bastille. Il était retombé dans l'état d'agitation qui l'avait poussé à venir faire cette pointe du côté de la forteresse où était enfermé Roger. Non plus parce que le découragement l'accablait, car il était, au contraire, plein d'espoir, depuis que le hasard l'avait, pour ainsi dire, pris par la main pour le conduire juste à point sur le passage du geôlier. Mais parce que tout ce qu'il avait appris, pendant cette conversation avec Rumignac, lui revenait à l'esprit et qu'il y avait dans sa cervelle un tohu-bohu du diable. Mettre de l'ordre dans ses idées, c'était pour le moment demander l'impossible à ce brave homme tout émotionné. Il marchait, tantôt la tête basse et comme écrasé par le poids de la lourde responsabilité qu'il allait assumer pour tenter de sauver le chevalier, tantôt le nez au vent, comme un gaillard, résolu à risquer quelques coups hardis. S'il avait tout d'abord ralenti le pas, c'est qu'il hésitait sur la direction qu'il allait prendre. Il eût voulu pouvoir s'occuper à la fois de Roger et d'Henriette. Qu'était-il arrivé après qu'il avait quitté la salpêtrière? Hélas, il ne pouvait en douter. Marest avait rigoureusement rempli les ordres reçus. Et la malheureuse jeune fille, cet ange de candeur et d'innocence, roulait déjà dans les rues de Paris, sur l'infâme charrette des prostituées, suivie et huée par la foule affamée de ce genre de spectacle. Et s'il parvenait à délivrer son maître, comment lui annoncerait-il la fatale nouvelle? En aurait-il le courage? Assurément, le chevalier de Vaudrey jetterait feu et flamme contre le lieutenant de police qui avait condamné Henriette à cet exil infamant. Il voudrait courir sus aux exemples qui emmenaient la jeune fille. Mais pour que cette tentative devînt possible, il faudrait d'abord que Picard eût mis son plan d'évasion à exécution et qu'il eût réussi tout juste à temps pour permettre au chevalier de se lancer à la poursuite du convoi des déportés. Le pauvre Picard était pris entre ces deux alternatives également pressantes. Ne sachant s'il retournerait à la salpêtrière pour s'enquérir du sort de la jeune détenue ou s'il se rendrait immédiatement à l'hôtel de Lignières pour s'occuper de la délivrance de Roger. C'est à ce dernier parti qu'il s'arrêta, lorsqu'ayant consulté sa montre, il s'aperçut qu'il n'avait devant lui que 2 heures pour faire le nécessaire avant de retourner auprès de Rumignac. Il prit donc le chemin le plus court, et en route il se disait « Monsieur Rumignac, j'ai pris bonne note de votre façon de traiter les geôliers avec lesquels vous pourriez avoir un jour des comptes à régler. C'est casé dans la tête à Picard. Et quand une chose est entrée dans cette tête-là, ça fermente, ça mûrit. Ça fleurit et ça fructifie. » Et il répétait à voix basse, se parlant à lui-même. Le tabac à même la poche, c'est tout ce qu'il y a de plus facile à se procurer. 2 ou 3 bonnes et fortes cordes, pas difficile non plus. Mais ça tient de la place. Il faudra aviser aux moyens de les dissimuler à notre entrée à la Bastille. Quant au bâillon, je sais où me le procurer. Arrivé à l'hôtel du lieutenant de police, Picard se rendit directement dans les combles où se trouvait sa mansarde, plus grande que celle des autres domestiques, et dont il avait fait une fort jolie chambre que n'eût pas dédaignée un bon bourgeois du Marais. Tout haletant, il se laissa aller sur un fauteuil, meuble retraité du cabinet du comte, qu'il avait fait réparer, dans lequel il venait s'étendre et jouir des instants de repos que lui laissait son jeune maître. Et là, l'esprit en ébullition, il se mit à examiner avec soin le plan d'évasion qu'il avait conçu. « Allons ! Fit-il tout à coup. « Je n'ai pas de temps à perdre si je veux revoir aujourd'hui ce bon monsieur Rumignac qui raffole des bouteilles de derrière les fagots. » Et l'œil du vieux domestique alla fouiller dans le coin formé par un vieux bahut de chêne vermoulu. « Nous allons descendre à la cave, » continua-t-il, ne pouvant, malgré la gravité des circonstances, se départir de ce vieux fond de jovialité que nous le connaissons. Ce que Picard appelait sa cave était précisément ce coin, derrière le bahut, où il laissait vieillir quelques bouteilles empruntées au cellier de son maître. Il y avait là une douzaine de fioles caparaçonnées de toiles d'araignée, précieuses réserves pour les soirées d'hiver, alors que notre homme avait besoin, disait-il, de se rajeunir un peu le sang. Picard alla prendre 6 de ses bouteilles qu'il plaça devant lui sur la petite table, qu'à l'imitation du comte de Lignières, il avait surchargé de vieilles paperasses de famille, faisant un singulier ménage avec des volumes dépareillés de romans de chevalerie. « Les voici, » dit-il, en rangeant avec précaution les bouteilles. « Les voici, ces demoiselles qui vont réjouir le cœur de M. Rumignac, m'aider à éteindre ses scrupules et à endormir la vigilance de ce terrible Cerbère. Maintenant, il faut décider, Monsieur le Chevalier, à se nourrir d'une façon substantielle et à prendre des forces afin qu'il soit en état d'accomplir notre projet d'évasion. Pour cela, écrivons-lui la lettre que mon ami Rumignac le remettra sans s'en douter. » Et il se mit aussitôt à tracer les lignes suivantes. « Monsieur le Chevalier, ne vous abandonnez pas au désespoir. L'heure de la délivrance est prochaine. Dimanche, vers la fin de la journée, j'accompagnerai dans votre prison le geôlier qui vous garde. C'est lui qui doit rester enfermé à votre place. Mais je vous en supplie, mon cher maître, ne refusez plus la nourriture qui vous est offerte, car pour le succès de mon plan, il vous faudra dépenser plus de force et d'énergie que n'en pourrait déployer à lui seul votre vieux serviteur. Et lorsque vous serez enfin rendu à la liberté, nous trouverons bien le moyen de délivrer à son tour Mademoiselle Henriette. » Picard ferma avec soin cette missive, la glissa dans sa poche et se rendit chez le pâtissier voisin. C'était un brave et digne homme que ce pâtissier rôtisseur. Il avait nom Cyril Balandier. Picard, qui s'enorgueillissait d'être premier valet de chambre de monsieur le lieutenant de police, se souciait peu de la société des autres serviteurs de l'hôtel. De la valetaille, ainsi qu'il nommait ses camarades subalternes, et il prenait souvent ses repas chez Cyril Balandier, dont il était devenu l'un des meilleurs clients. Aussi, dès qu'il parut, maître Balandier courut-il à sa rencontre. « Que faut-il servir à monsieur Picard ? » demanda-t-il. « Rien pour le moment. Je désire causer un instant avec vous, Balandier. Je suis aux ordres de monsieur Picard. Vous savez, Balandier, que j'ai une charmante nièce. » « Non, monsieur Picard, non, je ne le sais pas. » « Pardon, vous le savez, puisque je viens de vous le dire. » « C'est juste, je le sais. Vous savez que ma nièce Eulalie Vernouillet se marie prochainement. » « Non, monsieur Picard, je ne sais pas. » « Vous le savez, puisque... » « Puisque vous me le dites, c'est exact. » « Or, les accordailles auront lieu ce soir même. Et à cette occasion, tous les membres de la famille et tous les amis se réunissent dans un banquet. » « J'y suis. Ce banquet, c'est moi qui... »« Vous n'y êtes pas du tout. » Ce banquet se composera d'une espèce de pique-nique où chacun des convives fournira son plat. Et monsieur Picard me fait l'honneur de me commander le sien. Cette fois, vous avez deviné juste, Cyril Balandier. Je gage que vous vous êtes souvenu de mon pâté de caille et d'alouette. Vous y êtes tout à fait. Seulement, notez bien ceci. J'ai fait une gageure très importante. J'ai parié une forte somme que mon plat sera, de tous ceux qu'on apportera, celui qui plaira le plus aux deux jeunes fiancés. Eh bien, il me semble que mon pâté d'alouette et de caille... Votre pâté a certainement de grandes chances, mais ce ne sont que des chances et je veux une certitude. Car enfin, si un autre convive apportait, ainsi que moi, un pâté d'alouette et de caille, le mien lui serait supérieur, dit orgueilleusement Balandier. Mais si c'était précisément l'un des vôtres qui l'apporta ? Diable ! Diable ! Dit Cyril en se frottant le nez. Les chances alors seraient égales. Et si au lieu d'un pâté, notre homme s'avisait d'en apporter 2, 3, 4 ? Les chances seraient en sa faveur, dit Cyril. Et je ne vois aucun moyen. Et moi, j'en connais un. Un moyen infaillible. Lequel, monsieur Picard ? Écoutez bien ceci. J'écoute. Je suis très attachée à ma jeune parente et j'ai en Beauce une jolie petite ferme à laquelle je suis également attachée. « Une ferme ? » dit Cyril, ouvrant de grands yeux ahuris. « Je ne comprends pas bien ce qu'il y a de commun entre votre ferme et... »« Et vos pâtés ?»« Non, monsieur Picard, non, je ne saisis pas du tout. »« Eh bien, écoutez encore. » Sortant alors de sa poche sa lettre destinée au chevalier de Vaudrey, Picard ajouta. « Si, dans votre excellent pâté, nous introduisions adroitement la jolie ferme en question. »« Une ferme ? Dans un pâté ?» s'écria Cyril encore plus ahuri. « Si en un mot, dit Picard, Le plat apporté par moi se composait à la fois du pâté et de la ferme. Croyez-vous que les deux fiancés ne le préféreraient pas mille fois à tous les autres? Croyez-vous enfin que je ne gagnerais pas mon pari? Vous gagneriez, certainement, monsieur Picard. Seulement, peut-être commettez-vous une erreur. Je comprendrais très bien le pâté dans la ferme. Tandis que la ferme dans le pâté, non, non, je ne saisis pas du tout. Eh bien, mon bon ami, je vais m'expliquer plus clairement, et cette fois, vous comprendrez à merveille. Et présentant à Cyril la lettre destinée au chevalier, Picard ajouta d'un air triomphant. « La ferme, la voici !»« Ça, c'est une donation que je fais à ma nièce, laquelle sera, après moi, bien entendu, propriétaire de... »« N'achevez pas, j'y suis, je devine votre pensée. Vous voulez cacher le papier, c'est-à-dire votre donation dans le... »« Je devine à merveille, le pâté inclus dans la ferme. » C'est-à-dire, non, 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 la ferme renfermée dans le pâté. Oui, monsieur Picard, oui, votre plat vaudra 200 fois tous les autres à lui seul. Et le pari est gagné. Sans aucun doute. Mais je voudrais que la surprise fût complète. Je voudrais enfin que ma donation n'apparût pas comme ça, tout de suite, dès que l'on décoiffera le pâté. Rien de plus facile, monsieur Picard. Nous envelopperons ce papier dans un morceau de parchemin imperméable. Et au lieu de placer votre magnifique présent à la superficie de mon pâté, je me charge de l'insérer adroitement à la base. Cela fera de quelques instants. Et il fut fait ainsi que venait de l'imaginer le bon Cyril Valandier. L'heure étant venue, Picard prit un carrosse de place et muni des 6 bouteilles de vin et du fameux pâté, il se rendit chez son ami Ruminiac. Celui-ci l'attendait, lui, les bouteilles de vieux vin et le pâté. On sait que pour détruire toute espèce de soupçon dans l'esprit du geôlier, l'ingénieux Picard lui avait persuadé que le chevalier n'éprouvait pour lui qu'une médiocre sympathie, parce qu'il le savait, avait insinué Picard, entièrement dévoué au lieutenant de police, son maître primitif. Pour assurer le succès du plan qu'il avait formé, Picard avait besoin d'entretenir chez le geôlier la même confiance. Aussi fit-il avec lui des libations assez réitérées, prélevées sur le précieux liquide que Ruminiac devait garder en dépôt. Et voyant le geôlier suffisamment égayé, « Maintenant, dit Picard, il s'agit de faire accepter notre pâté par monsieur le chevalier. Et vous ne voulez pas que je lui dise que c'est de votre part? Il me considère comme son ennemi, vous dis-je. Mais j'ai parmi les membres de ma famille une personne, une jeune fille. Ah, le gaillard! Dit Ruminiac en pleine ébriété. « Monsieur Ruminiac, fit sévèrement Picard, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une personne de ma famille, une descendante des Picards. » « C'est juste, pardon, mille fois pardon, monsieur Picard, répondit humblement le geôlier. « Cette jeune personne, qui est ma nièce, dit Picard, est aussi la sœur de lait du chevalier. « Sa sœur ? De lait, oui, monsieur Ruminiac. Monsieur le chevalier a dans les veines du sang des... c'est-à-dire, non, du lait des Picards. Et en sa qualité de frère de lait, monsieur le chevalier de Vaudrey est fort attaché à ma nièce. Il l'aime tendrement, ma nièce. Et si vous lui persuadez que c'est elle qui le prie d'accepter et de consommer ce comestible, j'ai lieu de penser que nous réussirons. Je lui dirai alors. Vous lui direz que cet envoi lui est fait de la part de la personne qu'il aime le mieux au monde, de la part de sa sœur de lait, mademoiselle Henriette. Henriette. Mademoiselle Henriette Gérard, ma nièce. C'est entendu, monsieur Picard. Je me rends à l'instant même auprès du prisonnier. Nous nous reverrons prochainement, je l'espère. Ma foi, dit Picard avec une feinte indifférence, je ne sais trop, à moins que monsieur le lieutenant de police ne me charge de quelques missives à remettre personnellement à son neveu. Personnellement, dit Ruminiac, ce n'est guère l'habitude. Vous croyez ? D'ordinaire, les lettres sont envoyées à monsieur le gouverneur de la Bastille, qui les remet ou les fait remettre, s'il y a lieu, aux prisonniers. D'ordinaire, c'est possible, mais d'ordinaire, ce ne sont pas des lieutenants généraux de police qui écrivent aux détenus. C'est vrai. Et si, comme il avait précisément l'intention de le faire, ce matin, monsieur le comte entendait correspondre directement avec son neveu? Il le pourrait sans aucun doute. Il suffirait pour cela que la lettre portât le cachet de monsieur le lieutenant général de police. « Ah, il suffirait du cachet !» C'est bon à savoir, se dit Picard qui entendait pénétrer à quelque prix que ce fût dans la prison de son jeune maître. Et tout haut, il ajouta. Eh bien, mon cher Rumignac, je ferai part de votre observation à mon seigneur. Et si la fantaisie lui vient de nouveau d'écrire au chevalier, nous nous conformerons à votre désir. Ces dernières paroles, sur lesquelles Picard prit congé, avaient été prononcées avec une légère teinte d'ironie. Picard s'éloignait, le cœur rempli de joie, car il ne doutait plus maintenant que Roger dût prendre connaissance du billet placé dans le pâté. Et s'il n'a pas tout à fait perdu la tête, se disait le vieux domestique, si l'amour ne lui a pas éteint complètement l'intelligence, il comprendra, et quand il aura lu, il verra que je n'ai pas cessé de m'occuper de lui et de cette autre chère créature. Le brave homme était remué jusqu'au fond du cœur chaque fois qu'il pensait à Henriette, à présent qu'il savait quel danger menaçait la malheureuse enfant. Il reprit avec un long soupir. Oui, il saura que je songe à sauver l'infortuné, et que lui, libre, nous serons deux à combattre les exemples, leur officier, et jusqu'au tout-puissant lieutenant de police. C'est sous cette impression nouvelle que Picard avait échangé avec son hôte une dernière poignée de main. Une fois dans la rue, le grand air le frappant au visage vint à propos mettre un peu de calme dans son sang et un peu d'ordre dans ses idées. Il jeta un coup d'œil sur la forteresse au moment de s'engager dans la rue Saint-Antoine. Et levant les yeux au ciel, « À la grâce de Dieu » murmura-t-il, « de ce Dieu qui ne doit pas condamner les amours honnêtes parce que les couples n'appartiennent pas à la même catégorie sociale. » Puis s'arrête en cours. Bon, voilà que je deviens révolutionnaire à cette heure. Je marche avec tous ces énergumènes de philosophes qui... que non d'une corne de biche. Ce n'est pas eux qui trouveraient mauvais que le gentilhomme de Vaudrey se soit entiché d'une adorable couturière. Allons, décidément ces coquins de philosophes ont du bon. C'est en monologuant de la sorte que le serviteur, en partie double, se dirigea vers l'intérieur de Paris.